Ce matin, nous avons entendu ce texte merveilleux dans 1 Samuel 8, les 9 premiers versets. Merci Franck d'avoir lu ce texte. Et à plusieurs reprises, nous avons entendu ce verset 7 qui nous dit « Ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette pour que je ne règne plus sur eux. » Nous nous trouvons donc à la fin de cette période où Israël avait des juges. Nous constatons une chose quand nous regardons un peu l'histoire d'Israël. Le Seigneur a donné à son peuple, au peuple d'Israël, selon les époques, un leader, un chef, un dirigeant. Prenons par exemple Moïse. Moïse est un dirigeant, un chef nommé par Dieu pour faire sortir le peuple d'Israël de l'Égypte. Ils étaient en esclavage et Dieu a entendu leur cri et il a envoyé Moïse. Nous reviendrons sur le texte plus tard. Prenons l'exemple de Josué. Josué était un chef militaire de l'armée d'Israël. Il a été nommé, désigné pour faire entrer le peuple dans le pays promis. Il avait cette mission-là. Après Josué, il y avait les juges. Alors, selon les situations, Dieu désignait un juge qui va délivrer le peuple de ses oppresseurs. Nous prendrons quelques exemples tout à l'heure. Et enfin, après ces périodes-là, le peuple demande un roi. Et à ce moment-là, à cette époque-là, Dieu décide d'instituer la royauté pour une royauté pour le peuple d'Israël. Quand Samuel manifeste sa désapprobation, Dieu lui dit « Écoute le peuple, écoute le peuple. » Alors nous nous posons la question. Est-ce que c'est dans la volonté de Dieu ou pas dans la volonté de Dieu? Déjà, nous connaissons ce verset 7 qui a été cité à plusieurs reprises aujourd'hui, où il est dit « Ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, dit Dieu, pour que je ne règne plus sur eux. » Si nous regardons ce verset, nous pensons que à travers ce verset, Dieu désapprouve ce choix d'un roi. Et puis nous pouvons même penser que Dieu a été pris au dépourvu de cette situation. Mais nous croyons tous ici que Dieu n'est jamais pris au dépourvu. Rien n'est caché devant lui. Alors je vous amène un petit peu plus loin dans le texte, dans Deutéronome par exemple, et nous lisons ceci. Deutéronome 17, avant Josué, nous avons Deutéronome. Et nous allons lire au chapitre 17. Les versets 14 et 15. Voilà ce que dit Dieu à Moïse. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, lorsque tu le posséderas, que tu auras établi ta demeure, et que tu diras, « Je veux mettre un roi sur moi, comme toutes les nations qui m'entourent. » Tiens, même chose, n'est-ce pas?
Mais c'est déjà prévu. Tu mettras sur toi le roi que choisira l'Éternel ton Dieu. Tu prendras un roi du milieu de tes frères. Tu ne pourras pas te donner un étranger qui ne soit pas ton frère. L'événement qui se passe du temps de Samuel a été déjà prévu bien avant cela. Dieu a déjà prévu cette situation et même il en a donné les règles. Tu ne choisiras pas un étranger comme moi. Et pour ce roi-là, si on lit la suite, nous voyons qu'il doit prendre certaines dispositions. Donc Dieu n'est pas pris de court quant à la situation de Samuel, quant à la demande du peuple d'Israël. Dieu est Dieu. Il connaît tout, il sait tout, il prévoit tout. Mais allons plus loin et admirons le plan de Dieu malgré le choix des hommes. Lisons encore, remontons dans le temps, j'allais dire, dans Genèse 49. Genèse 49. Dans Genèse 49, nous voyons Jacob, qui porte maintenant le nom d'Israël, à la fin de sa vie. Donc il est en Égypte, hein, parce que Joseph l'a pris avec lui en Égypte. Maintenant, Joseph va mourir et il bénit ses enfants, les patriarches, les 12 tribus. Et qu'est-ce qu'il dit ? Au verset 10, mais on peut lire même avant, on peut lire à partir du verset 8, il parle de la tribu de Judas, son fils, Judas. Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Tu ploies les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Verset 10. Le sceptre ne s'éloignera point de toi. Le sceptre, le symbole de la royauté. Le sceptre ne s'éloignera point de toi, ni le bâton souverain d'entre tes pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Déjà, Jacob, le papa des 12 tribus d'Israël, annonce qu'il y aura un roi. Mais ce roi-là sera issu de la tribu de Judas. Et de ce roi-là sortira le roi Messie. Donc, à travers les deux textes que nous avons lus, autant dans Deutéronome, autant dans Genèse, nous constatons que Dieu avait prévu un roi pour Israël. Et je vais vous lire un texte qui semble un peu bizarre parce qu'il s'agit d'une prophétie faite par un prophète qui a désobéi à Dieu, qui a été l'occasion au peuple d'Israël de tomber. Il s'agit de Balaam. Lisons dans Nombre. Nombre, au chapitre 24. Verset 17. On peut lire même à partir du verset 15. Balaam prononça son oracle et dit: parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert, parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui connaît les desseins du Très-Haut, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Verset 17. Je le vois, mais non maintenant. Je le contemple, mais non de près. Un astre sortira de Jacob, sort de Jacob. Un sceptre s'élève d'Israël. Il perce les flancs de Moab. Il abat tous les saints, les enfants de Seth. Ils seront maîtres d'Édom. Ils seront maîtres de Séir, ses ennemis. Israël manifeste sa force. Je vois, je le contemple. Un astre sortira de Jacob. Un sceptre s'élèvera d'Israël. C'est formidable, n'est-ce pas? Samuel est là devant la demande du peuple d'Israël: donne-nous un roi. Et il est triste. Il dit même sa désapprobation. Et Dieu lui dit: écoute le peuple, ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi. Et pourtant, Deutéronome, l'événement était prévu. Genèse, il y aura même un roi éternel, le roi Messie qui sortira de Juda. Dans Nombre, par la bouche d'un prophète, Dieu révèle la venue de cet astre qui va dominer, qui va diriger son peuple. Dans notre texte de 1 Samuel 8, nous constatons une chose. Samuel est vieux. C'était le dernier juge du peuple d'Israël. Il est vieux. Il a même pris ses précautions en tant qu'être humain. Il a nommé ses deux fils comme juges après lui. Mais il semble qu'à ce moment-là, il semble que ce soit le peuple qui avait les yeux ouverts par rapport à ses deux fils. Ils n'ont pas accepté cette descendance-là. Ils n'ont pas accepté le remplacement du juge Samuel, qui était prophète aussi, par ses deux enfants. Parce que ces deux enfants avaient des comportements inacceptables. Verset 5, il est dit, du chapitre 8, il lui dit: voici, tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. Tes fils ne marchent pas selon tes voies. Le peuple demande un roi comme en ont toutes les nations. Je pense que la partie négative dans cette situation-là, c'est faire comme les nations. Dieu, selon le besoin de son peuple, a toujours fait appel à un homme ou à une femme de situation. Qu'il qualifie, qu'il place, qu'il envoie et qu'il accompagne. Ce principe-là existe autant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Prenons quelques exemples. Nous avons parlé déjà de Moïse tout à l'heure, mais que dit le texte ? Exode 3. Exode au chapitre 3. Les 12 premiers versets de ce chapitre. Il est dit: Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, « Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. » L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, « Moïse, Moïse !» Et il répondit, « Me voici !» Dieu dit, « N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds. » Alors, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Il ajouta, « Je suis Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Mais Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Éthiens, les Amoriens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. J'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. » Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël ?» Dieu dit, « Je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Déjà deux choses se révèlent. Il appelle, il envoie, il accompagne. Voilà ce que nous découvrons dans ce choix de Moïse. Quelle que soit la vie de Moïse, Dieu appelle, Dieu envoie et Dieu accompagne. Mais si nous connaissons la vie de Moïse, il a déjà été formé dans le palais de Pharaon quant à ses connaissances, ses capacités, son intelligence, sa sagesse. Ainsi, Moïse entre dans le principe Dieu appelle, qualifie, place, envoie et accompagne. Si nous prenons Josué au chapitre 1er, l'histoire de Josué, on connaît, et c'est bon de se le rappeler. Chapitre 1er. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout le peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que fleura la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. » Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Éthiens jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi, prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne se lève point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement dans tout ce que tu pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre ? Fortifie-toi, prends courage, ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Nous voyons encore dans cet appel, Dieu désigne Josué, il lui donne une mission, faire entrer le peuple dans la terre promise, et il assure sa présence. Une chose qui est encore ajoutée vis-à-vis de Josué, c'est qu'il donne la clé de la réussite, la loi que Moïse a déjà préparée. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Et là, mes amis, nous passons dans cette étape où Dieu donne un document qu'il faut prendre au sérieux, un document où il faut s'en nourrir, un document où qu'on ne doit pas laisser prendre poussière, un document qui ne doit pas se perdre, un document qui conditionne la réussite de la mission. Dieu accompagne et donne même la clé de la réussite. Voilà pour Josué. Prenons un exemple d'un juge. Juge dans le chapitre 3. Il s'agit d'Othniel. J'aurais pu prendre Déborah comme femme, par exemple. J'aurais pu prendre Samson. J'aurais pu prendre qui encore? Gédéon. Hein? Tous ces hommes-là dans Juge. Mais je prends le premier, Juge au chapitre 3, versets 7 à 11. Je le prends parce que le texte est plus court. Parce que si nous prenons Gédéon, hein, le texte est plus long. Alors, au chapitre 3 des Juges, il est dit « Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Ils oublièrent l'Éternel et ils servirent les Baals et les idoles. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et il les vendit entre les mains de Cushan-Rishétaïm, roi de Mésopotamie. Et les enfants d'Israël furent asservis 8 ans à Cush-Rishétaïm. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel et l'Éternel leur suscita un libérateur qui les délivra. Othniel, fils de Kenaz, fils cadet de Caleb, l'Esprit de l'Éternel fut sur lui, il devint juge en Israël, il partit pour la guerre. L'Éternel livra entre ses mains Cushan-Rishétaïm, vous avez compris, roi de Mésopotamie, et sa main fut puissante contre ce roi. Le pays fut en repos pendant 40 ans et Othniel, fils de Kenaz, mourut. Là, nous découvrons le choix d'un juge. La situation, c'est que le peuple d'Israël est sous l'oppression de ce roi de Mésopotamie. Ils sont asservis pendant 8 ans. Ils crient à l'Éternel. Et l'Éternel leur choisit un libérateur. Et ceci pour vous dire que les Juges, c'était cela, une difficulté particulière. L'Israël faisait n'importe quoi. Et à ce moment-là, il y a un retour à l'Éternel et l'Éternel envoie un juge. Et nous constatons encore, Dieu appelle, donne une mission et accompagne. Et ici, nous constatons que l'Esprit de l'Éternel fut sur lui. Les gens, les personnes choisies par Dieu ne partent pas comme ça. Allons plus loin. Et dans le Nouveau Testament, alors, est-ce que nous voyons ce principe? Dieu appelle, qualifie, envoie, accompagne. Eh bien, allons-y directement dans les paroles du Seigneur Jésus, dans Matthieu 4, verset 19, où il est dit « Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » C'est Jésus qui appelle. Mais pour envoyer, il qualifie. Il donne les moyens. Donc, à ses disciples, il donne la formation. Il passa 3 années avec eux. Matthieu Maintenant, nous allons dans Jean au chapitre 15. Jean au chapitre 15. Il y a d'autres passages, bien sûr, où nous voyons Jésus appliquer ce principe. Dans tout l'évangile, nous voyons, il appelle ses disciples. Il nomme même les 12 apôtres. Il envoie les 60 avec le pouvoir face à l'ennemi. Et dans Jean 15, au verset 16, où il dit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi, je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, je vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. » C'est moi qui vous ai choisi, l'appel. Je vous ai établi. Mise en place pour une mission, afin que vous alliez partir et que vous portiez du fruit. Jésus resitue cette progression avec un objectif, c'est que le disciple, celui qu'il a choisi, porte du fruit. Il a un programme de formation pour chaque disciple. Et comment ? Il l'a dit dans Matthieu 4, 19, « Suivez-moi ! » Il y a une première démarche de venir à Jésus. « Suivez-moi, et moi je vous ferai pécheur d'hommes. » Toujours l'appel, la formation, l'accompagnement. Jésus ne laisse pas. Et cela, nous l'avons vu par ces hommes choisis par Dieu dans l'Ancien Testament. Vous pouvez lire aussi les prophètes dans l'Ancien Testament. Mais continuons dans le Nouveau Testament. Matthieu à la fin. Bien sûr, nous ne pouvons pas rater ce chapitre 28 de Matthieu, que je pense que tout le monde connaît. La fin du livre de Matthieu, où il est dit, à partir du verset 19. Non, on peut même lire à partir du verset 18. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, l'autorité du Seigneur. » Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il présente son autorité. C'est par cette autorité qu'il dit, venez, suivez-moi, je vous ferai pécheur d'hommes. Maintenant, allez, faites de toutes les nations des disciples. Et je vous assure que je ne vous abandonne pas. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il ne dit pas, je vous observe de loin. Ne vous inquiétez pas, je vous vois même si vous êtes loin. Non, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous ne pouvons pas mettre en doute les paroles du Seigneur. Donc, quoi qu'il en soit, que le peuple d'Israël, nous revenons dans 1 Samuel, bien sûr, chapitre 8, que le peuple choisisse avec une mauvaise motivation, Dieu n'est pas pris de court. Et quand Dieu choisit, il choisit et donne toutes les qualifications pour que celui qui est choisi arrive au but. Pour nous chrétiens, c'est de porter du fruit. Et revenez un message que j'avais donné sur le fruit de l'esprit. Regardez les fruits de l'esprit dans Galates. Et voyez si vous portez ces fruits. Peut-être nous n'avons pas la prétention de les avoir tous, les facettes de ce fruit de l'esprit. Mais si nous n'avons aucune de ces facettes de l'esprit, le fruit de l'esprit, alors nous pouvons nous poser la question si nous avons permis au Seigneur d'atteindre son objectif dans notre vie. Il choisit, il qualifie, il place, il envoie, il accompagne. Mais vous avez remarqué que le Seigneur, l'Éternel Dieu, ne manipule pas les gens qu'il appelle. Il leur laisse quand même le choix d'obéir totalement, partiellement, ou pas du tout. À Josué, il lui a donné un moyen pour obéir totalement, c'est la parole de Dieu. Tu lis la parole de Dieu. Tu médites la parole de Dieu. Tous les jours. Pour que tu saches où tu vas. Et décider d'obéir ou pas. Et si tu obéis, ta mission sera une réussite. Et c'est exactement pareil pour nous aujourd'hui. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Comment savoir les commandements du Seigneur ? Lire la Bible ou entendre l'évangile seulement le dimanche ? Non. Il faut s'en nourrir. Je me rappelle Ralph Challis, ce frère, il était déjà vieux à l'époque. Il dit, le chrétien doit être comme une éponge par rapport à la parole de Dieu. Quand on le presse, tout ce qui en sort, c'est de la parole de Dieu. Une éponge de la parole de Dieu. Alors Josué Dieu insiste pour qu'il lise, mette en pratique la loi pour atteindre l'objectif que Dieu lui a fixé. Et les rois d'Israël alors, Dieu aussi leur a demandé la même chose. Vous savez que dans Deutéronome 17, il est dit ceci. Deutéronome 17, verset 18 à 20, il est question du roi. Le passage que nous avons lu tout à l'heure, hein, tu choisiras un roi parmi tes frères. Et au verset 18, il est dit, « Quand il s'asseyera sur le trône de son royaume, il écrira pour lui dans un livre une copie de cette loi qu'il prendra auprès des sacrificateurs, les Lévites. Il devra l'avoir avec lui et y lire tous les jours de sa vie, afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel son Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ses ordonnances, afin que son cœur ne s'élève point au-dessus de ses frères et qu'il ne se détourne de ses commandements, ni à droite ni à gauche, afin qu'il prolonge ses jours dans son royaume, lui et ses enfants au milieu d'Israël. » Tiens, tiens, tiens! Ce que je partage ce matin, c'est une introduction à l'étude de l'ensemble et la vie des rois d'Israël. Nous verrons, il y a des bons rois, comme dit Franck tout à l'heure, il y a des mauvais rois, mais ce qui est certain, à chaque roi pouvait voir la volonté de Dieu s'il avait pris une copie de la parole de Dieu avec lui. C'est aussi dans cette volonté que Jésus dit à ses disciples, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » La même chose, les amis. Nous n'avons pas un exemplaire de la loi. nous avons toute la Bible entière. Et nous avons même plusieurs exemplaires de la Bible chez nous. Nous avons même la possibilité d'écouter la parole de Dieu sur Internet. Nous avons tant de possibilités, jusqu'à même avoir des commentaires, des multiples commentaires, des Bibles dans plusieurs versions et dans plusieurs langues. Est-ce que nous obéissons en ce sens, dans cette volonté de connaître le plan de Dieu à travers le livre, le superbook qu'il nous a laissé? Alors la question se pose, quelle est la place de la parole de Dieu dans notre vie? Tout à l'heure nous avons dit, est-ce que Dieu est pris de court? Non, Dieu n'est pas pris de court par un événement. Maintenant, quelle est la place de la parole de Dieu dans notre vie? Ne nous a-t-elle pas été donnée pour notre formation? Et par notre obéissance, Dieu ne veut-il pas atteindre un but? Et si nous regardons Jean 15 tout à l'heure, son but est de que nous portions du fruit. Et puis il y a plusieurs versets qui nous parlent de l'importance de la parole de Dieu. Bien sûr, ce 2 Timothée 3,16 où il dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour convaincre, pour corriger, pour nous instruire, ainsi de suite, afin que l'homme de Dieu soit apte à... soit complet, quoi. » Lisez ce passage, 2 Timothée 3,16, 17. Dans Jean 15, bien sûr, nous l'avons vu. Mais prenons un autre passage que nous connaissons peut-être pas bien, c'est dans Éphésiens au chapitre 1er, objectif de Dieu pour nous, à travers sa parole, à travers cet appel, cette formation, cet envoi, cet accompagnement. Éphésiens au chapitre 1er. Chapitre 4 à 6. On peut lire même le verset 3. Béni soit Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. C'est l'appel. Pour que nous soyons saints, irréprochables devant lui. Objectif. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Nous sommes appelés à être des gens qui glorifient Dieu. Dans notre vie, dans notre relation avec lui. Dieu nous a appelés, qualifiés, envoyés, accompagnés. Mais quand nous lisons la parole de Dieu, il y a un danger. Jacques, chapitre 1er. Jacques, chapitre 1er. Le verset 22. Jacques chapitre 1er verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole de Dieu et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Nous y trouvons même le bonheur dans l'obéissance. quelle est la place de la parole de Dieu dans notre vie. Revenons à notre chapitre 8 de 1 Samuel. Samuel, lui, avertit le peuple et lui fait connaître les droits d'un roi. Hein? Obéissance, il va prendre des serviteurs, il va prendre parmi le peuple des soldats, il va ainsi de suite. Des obligations. Et après avoir présenté tout cela, la réponse du peuple est catégorique. Le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. Non, dirent-ils, il y aura un roi sur nous, et nous aussi nous serons comme toutes les nations. Nous serons comme toutes les nations, les versets 19 et 20. Avec qui nous identifions-nous? À qui voulons-nous ressembler? Quand nous regardons un film avec un film d'action, quelqu'un, un héros, et nous regardons cela, et puis dans le feu du suivi de l'action et le scénario, on se voit comme le héros dans le film, on s'identifie ou le prince au prince ou à la princesse, ainsi de suite. Avec qui nous identifions-nous? Ici, le peuple a décidé. Nous aussi, nous serons comme toutes les nations. Et chose formidable, c'est que le Seigneur n'envoie pas le feu du ciel sur la nation. Le Seigneur n'envoie pas le feu du ciel sur ses anciens, ses responsables qui sont venus voir Samuel. Il leur a dit tout simplement d'écouter le peuple. Tu établiras un roi sur eux. Verset 22. Mais maintenant que je vous ai dévoilé que Dieu avait prévu quelque chose avant, pour nous ça semble être logique. Mais si nous ne savions pas, Dieu n'est pas pris de court. Mais il va changer cette demande dont les motivations n'est pas saine. Hein? Ils veulent faire comme le monde. Et nous savons, pour nous actuellement, selon Romains 12, il est dit que nous sommes appelés à ne pas nous conformer au monde. Hein? Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Romains 12, 1 à 2. Le peuple, bien que sa motivation est mauvaise, Dieu ne l'abandonne pas. Il va donc lui-même choisir le roi que le peuple demande. Mais il va le choisir selon les aspirations du peuple. Il ne sera pas le roi dont la descendance va aboutir au roi Messie. Il va donc choisir un roi d'une autre tribu. Il va choisir un roi de la tribu de Benjamin. Nous le verrons plus tard quand nous aborderons l'histoire du premier roi d'Israël. Nous constatons que Saül, qui sera le premier roi d'Israël, cela sera de la tribu de Benjamin. Il n'aura pas cette dimension d'être un des pères du roi Messie. Parce que le roi Messie va sortir de la tribu de Juda. Saül va être donc, quant à sa mission, comme les juges. il va être un libérateur du peuple d'Israël face à un oppresseur, et en particulier le peuple des Philistins. Dans la royauté du peuple d'Israël, nous avons deux lignées bien distinctes. Une première lignée qui va aboutir au roi Messie, le Seigneur Jésus, et puis plusieurs lignées qui n'auront qu'une mission terrestre, et Saül en fait partie. Vous voyez la différence ? Vous voyez pourquoi Dieu a choisi Saül ? La décision du peuple d'Israël d'avoir un roi comme les autres nations nous donne à réfléchir et à nous poser la question : quel roi voulons-nous pour notre vie ? Un roi comme le monde ? Nous avons sûrement quelque chose qui dirige notre vie, que nous aimons, mais est-ce que c'est quelque chose qui honore Dieu ? Alors, trois questions restent. Quelle est la place de la parole de Dieu dans notre vie ? Avec qui nous identifions-nous ? À qui voulons-nous nous ressembler ? Et quel roi voulons-nous pour notre vie ? Et voilà, je m'arrête là. Que cette méditation soit une base pour nous introduire dans la vie de plusieurs rois. Il y a certains rois que nous allons étudier seuls, d'autres rois où on va grouper plusieurs autres rois, et on va étudier leur vie et les objectifs de leur vie. Mais gardons, est-ce que ce roi fait partie de la lignée qui aboutit au roi Messie, ou seulement pour une mission terrestre ? Et faisons une application sur notre vie. Tout ce qui, dans notre vie, même les décisions que nous prenons et qui semblent être très très bibliques, mais dont la motivation n'a rien à voir avec Dieu, eh bien ça restera bassement terrestre. Ça ne glorifie pas l'Éternel. Prions. Merci au notre Dieu de nous placer devant ce texte de 1 Samuel 8. Merci de nous rappeler certaines grandes questions dont nous pouvons nous poser. Merci de nous éclairer pour que notre vie ne soit pas dépendante d'une vision simplement humaine, mais se basant sur toi, Seigneur Dieu, nous donnant une vision éternelle. Amen.